Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Avec à l'honneur ce soir, Eliud Kipchoge, premier marathonien à descendre sous les deux heures. L'équipe de France de football, victorieuse en Islande. Des nouvelles des étalons burkinabés, des sélacantes, des Comores, des aigles de Carthage tunisiens et des lions indomptables camerounais. La Coupe du Monde de rugby, perturbée par un typhon. Et enfin, un invité exceptionnel, Pascal Martineau-Lagarde, médaillé de bronze aux récents mondiaux d'athlétisme de Doha. Mondial Sport avec Valentin Vanner et Laurent Philippot aux manettes, top départ. h 14 ce matin à Vienne, Eliud Kipchoge entre dans l'histoire de l'athlétisme en devenant le premier à courir le marathon sous la barre mythique des 2 heures. 1h59 minutes et 40 secondes précisément, soit presque 2 minutes de moins que son record du monde de l'an passé à Berlin. Voilà ce qu'a réalisé l'athlète kényan de 34 ans, aidé, il est vrai, par des conditions exceptionnelles. Son riche sponsor Ineos a en effet tout fait pour que Kipchoge réussisse sa tentative, à tel point d'ailleurs que ce temps ne sera pas homologué par l'I2F, la Fédération Internationale. Pour essayer de comprendre pourquoi, nous allons demander des éclaircissements à l'un des plus grands athlètes français de l'histoire, le champion d'Europe du 110 mètres haies en 1986, j'ai nommé Stéphane Caristan. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
La performance en elle-même, moins de 2 heures pour un marathon, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire?
Depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis pas en état de choc, mais presque. Je suis toujours sous le coup de la stupéfaction, parce que c'est un mythe qui tombe, c'est une première, et forcément l'histoire sera impactée. Il y aura un avant et un après Kipchoge. L'homme était déjà exceptionnel, et il donnait beaucoup de crédit à tout son palmarès, à toute son histoire. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose sur le marathon.
Là, effectivement, les conditions étaient particulières. On peut les citer. 41 lièvres mis à sa disposition tout le long du parcours. Une route totalement plate, ouverte par une voiture. Des balayeurs qui enlevaient au fur et à mesure toutes les feuilles mortes qui pouvaient se trouver sur son passage. Le coureur kényan, porteur de chaussures qui améliore, paraît-il, de 4% les performances avec un système de lame carbone. Ça vous gêne un peu tout ça?
Écoutez, c'est là où le bas blesse, entre guillemets, puisque on a déjà assisté à une parodie, entre guillemets, d'organisation de championnat à Doha il y a quelques jours de cela, avec les championnats du monde d'athlétisme, qui ont plus été le fait de l'argent que de l'intérêt de la performance ou des athlètes. Là, on voit bien que dès l'instant où un milliardaire s'attache à ce qu'un projet aboutisse, l'argent étant le nerf de la guerre, comme on dit, il n'y avait pas de limite. Et quand je vous entends avec même des balayeurs qui viennent enlever les feuilles mortes, ça défie l'entendement, quoi. Donc on est tombé dans un sport business. Et j'ai peur que le sport olympique numéro 1, on est à la veille des Jeux Olympiques de Tokyo, que notre sport soit un petit peu bafoué, un petit peu dans ses valeurs, dans son histoire, par ce sport business qui fait que c'est l'argent qui gouverne et on prête plus attention à la performance, à la lutte d'homme à homme et puis à l'histoire de notre sport.
À quel point toutes ces choses mises à sa disposition, les lièvres, la voiture, les balayeurs, ça a pu améliorer sa performance, ça a pu l'aider. Est-ce qu'on peut quantifier même en temps le gain?
Non, moi je ne suis pas encore une fois un expert. Hein. Je peux vous dire qu'il a battu le record du monde de 2 minutes, ce qui est à ce niveau-là phénoménal. Ce n'est pas comme si le record du monde déjà à l'époque n'était pas extraordinaire en soi. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gain puisqu'il avait tenté il y a quelques années, 2 ans à Monza, et que même dans des conditions exceptionnelles, eh bien ça n'avait pas été suffisant. Aujourd'hui, franchit le cap avec des lièvres qui l'ont poussé dans ses retranchements, qui dans les moments difficiles, eh bien quand vous êtes dans une compétition, tout le monde est dans le dur plus ou moins à un moment donné, donc les relais ne sont pas évidents. Là, les relais, ils étaient permanents, ils l'ont maintenu. Après, il faut encore une fois pouvoir, hein, physiquement, physiologiquement. Et c'est là où la performance est hallucinante, parce que dès l'instant où on sait qu'on peut aider une personne eh bien, de cette manière-là, en l'accompagnant avec un vélo, avec des lièvres, ça aurait été des vélos, c'était pareil. Hein. Là, il n'y a plus de commune mesure. Eh bien, on peut repousser ses limites, et c'est ce qu'a voulu montrer aussi, je suppose, Kipchoge.
Donc, si c'est passé aujourd'hui, ça sert la cause de l'athlétisme?
Je ne sais pas si ça sert la cause, ça sert en tout cas le spectacle, parce que c'était un spectacle en soi. Un homme à lui tout seul a réussi à mobiliser des sommes d'argent incroyables, et surtout, j'ai vu quelques images, un public présent aux abords de la course important aussi. Donc, il y a eu un marketing, c'est un spectacle sportif qui sort du domaine on va dire, traditionnelle, comme moi je le conçois, de lutte d'homme à homme et de règles qui sont valables pour tous, quoi.
Ce qui s'est passé aujourd'hui peut inspirer un autre coureur, au Kipchoge lui-même, et lui permettre de battre vraiment dans des conditions normales le record du monde et de passer sous la barre des 2 heures.
Encore une fois, Kipchoge a montré que c'était possible avec des moyens dans une compétition. Je pense qu'il retournera à Amsterdam ou à Berlin sur des marathons réputés rapides avec la réelle ambition de faire moins de 2 heures dans des conditions officielles pour officialiser ce record. Et aujourd'hui, encore une fois, le premier homme qui a couru moins de 10 secondes, il a ouvert la porte à d'autres. Le premier blanc qui a couru moins de 10 secondes, bah, ça a ouvert la porte à d'autres aussi. Donc voilà, le sport est fait de barrières psychologiques. Et des fois, il suffit d'une fois pour que derrière s'engouffre et que les limites tombent et qu'on se dise c'est possible.
Et ajoutons que grâce à cette performance, Eliud Kipchoge a reçu de la part d'Ineos une prime $1 million. Merci beaucoup Stéphane Caristan d'avoir été avec nous. Bonne soirée. On ouvre notre page football avec, pour commencer, les éliminatoires de l'Euro 2020. L'Italie a décroché ce soir sa qualification en battant la Grèce 2-0. Derrière, dans ce groupe J, c'est serré après la défaite de la Finlande en Bosnie-Herzégovine 4-1 et le nul de l'Arménie au Liechtenstein 1-partout. L'Espagnol devra attendre encore un petit peu après avoir concédé in extremis le nul en Norvège. 1-partout, l'Espagne largement en tête devant la Suède, qui a gagné à Malte 4-0 et la Roumanie, victorieuse aux îles Féroé 3-0. Enfin, rien n'est joué dans le groupe D avec l'Irlande et le Danemark en tête. Les Irlandais qui ont fait 0-0 en Géorgie, tandis que les Danois dominaient la Suisse 1-0. Hier, l'équipe de France a fait un grand pas vers la qualification en allant s'imposer en Islande 1-0, une victoire acquise dans la douleur. C'est Antoine Griezmann qui a débloqué la situation en obtenant un pénalty jugé litigieux par les Islandais. Le joueur de Barcelone très en vue hier qui a laissé à Olivier Giroud le soin de le transformer. À l'arrivée, 3 points qui font du bien au bleu. Retour sur cette rencontre avec dans la fraîcheur de Reykjavik le reportage d'Antoine Poignet.
Des huées pour Griezmann, l'attaquant français devenu vendredi soir l'homme le plus détesté en Islande et particulièrement dans ce petit stade de Reykjavik au-dessus duquel passaient les oies sauvages. Sa faute, aux yeux des supporters, avoir exagéré sa chute sur le tacle raté de Skoulason dans la surface à l'heure de jeu. Penalty décisif puisqu'il permet à Giroud de rapprocher les Bleus de l'Euro 2020 au terme d'une rencontre sans génie, accroché et physique. 3 points, bon à prendre malgré tout, admettait Griezmann.
Ouais, on savait que ça allait être compliqué, que ça allait être un match dur à jouer, avec beaucoup de duels où on devait gagner pour s'approcher de la victoire. Et voilà, après deuxième mi-temps, on a été meilleur. Et bon, y a le penalty où Olive la met au fond. Et après, on a essayé de gérer. Tout le monde a défendu, tout le monde a travaillé pour l'équipe et ça fait du bien de voir ça.
Giroud Griezmann, le duo offensif champion du monde, des cadres qui ont tenu leur rang au milieu de la tempête de forfaits. Pogba indisponible, Lloris blessé au coude à la veille du rassemblement, Mbappé reparti à Paris à 2 jours du départ en Islande, Hernandez ménagé à cause de son genou à la veille de la rencontre et Kanté remplacé à la dernière seconde par Moussa Sissoko. 5 titulaires habituels sur le flanc, la moitié de l'équipe de France tout simplement. Mais Didier Deschamps a pu sur d'autres cadres. Griezmann, sans être brillant, amène le penalty et Giroud le transforme. L'attaquant de Chelsea, autant de jeux faméliques en club, mais qui marque encore en bleu son 37e but à 4 longueurs de Michel Platini désormais. Giroud encore incontournable aux yeux de Didier Deschamps.
Je ne sais pas les interrogations qu'il peut avoir en externe. Ça ne me concerne pas. Je vois ce qui se passe. Je sais ce que Olivier est capable de faire. Il l'a fait ce soir, malgré peu de temps de jeu, mais voilà, dans son registre. Évidemment, il marque un but sur penalty qui est décisif, ça fait un but de plus pour lui, mais au-delà de ça, dans le jeu, en déviation, en remise, voilà, il est toujours important, donc je ne me suis pas posé la question, je savais qu'il allait débuter ce match. Pour moi, c'était logique.
De quoi remettre de l'ordre dans les esprits tricolores, habités par le doute avant la rencontre. Solide, les Bleus restent capitaines de leur destin. Une victoire lundi contre la Turquie et l'Euro sera en vue. Mais s'ils ont su éviter le piège islandais, le souvenir turc, lui, est toujours là. En juin, les joueurs de Senol Güneş avaient infligé une cuisante défaite aux Français, 2-0 à Konya. Match raté, au dire du sélectionneur des Bleus. Revanche à prendre, estime Corentin Tolisso, le milieu de terrain.
Bien sûr, étant donné qu'on a perdu à l'aller, bien sûr qu'il y aura quand même un esprit De revanche, après le plus important vraiment c'est de travailler sur nous-mêmes et pas forcément par rapport à eux. On sait qu'on a une bonne équipe avec un beau groupe de qualité. Donc voilà, il faut mettre les ingrédients qu'on a mis dans les matchs précédents pour gagner celui-là. Ça se présente bien, après voilà, c'est à nous de tout mettre lundi justement pour battre la Turquie et voilà, se qualifier je crois si on gagne lundi. Et voilà, on sait que ce sera un match très très compliqué, ça avait été difficile à l'aller. Mais voilà, ce sera à nous de tout mettre en œuvre, de tout faire pour les bousculer et remporter ce match.
France-Turquie, rencontre classée à haut risque par les autorités françaises. À l'aller, la Marseillaise avait été huée par les supporters turcs. Mais après l'Islande, Griezmann et les siens ont appris à gérer les réactions hostiles. Antoine Grenier, Reykjavik, RFI.
Il y a 3 journées de la fin, la Turquie et la France se partagent la tête du groupe avec 6 longueurs d'avance sur l'Islande, qu'accueillera Andorre de son côté lundi. Un succès des Bleus face aux Turcs au Stade de France qualifierait les champions du monde tricolore pour l'Euro 2020. On passe au football africain, c'est l'affaire de Martin Guez. Bonsoir Martin.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
La Coupe d'Afrique des Nations 2019 à peine achevée, voilà que se profile la prochaine, l'édition 2021. Elle est déjà dans la tête des équipes africaines qui se préparent un petit peu partout, en Afrique, en Europe et même en Asie.
Oui, l'Asie, ce sera pour demain où le Nigeria, 3 jours après le Sénégal, affrontera le Brésil. Match amical de gala à Singapour, moins exotique, plus classique. Les Tunisiens accueillent ce soir le Cameroun à domicile à Rades. Une belle affiche pour 2 sélectionneurs novices. Mondaïr Kébaïr côté aigle de Carthage, Tony Conceição chez les Lions Indomptables. Le Portugais méconnu du grand public, tout juste intronisé, de poids lourd continentaux, mais à l'arrivée un tout petit match 0-0 entre les deux équipes. Pour l'attaquant camerounais Ignatius Ganago, il va falloir être patient avec ce nouvel entraîneur.
Je trouve qu'il y a un vrai changement, c'est un nouveau coach, c'est son premier match et on va lui laisser le temps, on aura le temps de retravailler ensemble et je pense que dans les matchs prochains on va faire des bonnes choses. L'objectif c'est la CAN déjà, 2021 chez nous et après on va essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde.
Voilà, il voit loin Ignatius Ganago au micro de Farouk Katou.
De leur côté, les Comores et la Guinée s'affrontaient bien loin de Moroni et de Conakry.
Oui, ils n'étaient pas à la maison ni aux antipodes, mais à Versailles, en banlieue parisienne, bien loin de la vie de château. Le Sili National est en crise depuis la CAN. La Guinée qui a fait le ménage et accueilli sur son banc Didier Six. Mais sans son capitaine Ibrahima Traoré ni la star Naby Keïta, eh bien la Guinée s'est inclinée pour le premier match du Français. Défaite 1-0 sur un but justement de la star des Sélacantes, le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, El Fardou Ben Nawad, un des rares joueurs confirmés comoriens, l'archipel qui n'a jamais participé à la CAN et qui n'était pas passé très loin d'une qualification historique en mars dernier face au Cameroun avant de porter réclamation devant le TAS. Sans succès, c'est désormais un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le sélectionneur Amir Abdou qui retente sa chance pour 2021.
Il y a toujours un nouveau cycle. Il faut savoir que les Comores, il y a beaucoup de jeunes qui émergent dans les centres de formation, mais voilà, c'est des joueurs en devenir. Voilà, après on a des joueurs confirmés, mais les joueurs confirmés, c'est on force personne pour jouer avec la sélection parce qu'on a beaucoup de binationaux. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui rêvent encore de l'équipe de France. Voilà, on les laisse rêver. On a essayé à plusieurs reprises de leur tendre la main en espérant qu'ils arrivent pas trop tard pour pouvoir un petit peu rehausser le niveau de cette sélection. Mais on va jouer avec les joueurs qu'on a actuellement et ces joueurs-là qu'on a, ben ils donnent beaucoup de cœur et sont très enthousiastes, prêts à se battre pour leur pays quoi.
Vous parlez d'énergie. Est-ce que vous en avez peut-être pas perdu un peu trop d'énergie en tentant de vous qualifier pour la CAN 2019 sur tapis vert? Est-ce que vous avez encore de la ressource? Est-ce que vous avez digéré cet épisode-là?
Oh, digéré, oui, on a digéré. Après, bon, psychologiquement, certains joueurs avaient la tête ailleurs. Je l'ai ressenti sur le match du Cameroun, même si ça a été difficile pour nous. Après, il faut savoir aussi d'où on vient et l'adversaire était de qualité. C'était le champion de titre. Cameroun, c'est quand même une référence en Afrique. C'était un petit peu de l'intox d'aller chercher un résultat chez eux aussi. Il faut qu'on soit plus consistant, plus conquérant et plus vicieux et plus expérimenté pour jouer les matchs à l'extérieur. On sait qu'on n'est pas performant à l'extérieur. À domicile, on arrive à faire des bonnes choses. Donc, c'est à nous de gommer. Et comme on dit, on apprend de nos erreurs. Et je pense qu'on a beaucoup appris et on veut passer ce cap-là. On sait que ces 2 matchs-là qui nous attendent au mois de novembre, eh ben, ça va être le tournant d'une prochaine qualification. On n'a pas le droit à l'erreur.
Groupe retrouvaille avec le Togo, on retrouve aussi l'Égypte et le Kenya. Donc si on regarde un peu, ça fait un poids lourd continental, une équipe de la dernière CAN et un habitué de la compétition. Vous êtes encore une fois plutôt le petit poussé du groupe. Comment vous évoluez vos chances de sortir de ce groupe? Ce serait historique en plus pour les Comores de se qualifier.
Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Hein. comme je l'ai dit, il faut qu'on arrive à trouver une constance à l'extérieur, puis être meilleur à la finition et qu'on n'est pas en dessous de certaines nations. Mais comme je l'ai dit, le tournant va être sur les deux premiers matchs. On doit s'améliorer dans la constance et dans la continuité des matchs.
Voilà, les Comores qui affronteront donc le Togo et l'Égypte en qualification le mois prochain.
Cette séquence de matchs amicaux a débuté jeudi avec un duel de convalescents entre les deux grands absents de la dernière CAN.
Le Gabon face au Burkina Faso, des Panthères à la patte molle face à des étalons au petit trot. Eh bien, ce sont les joueurs de Patrice Neveu qui s'en sont le mieux sorti, victoire 1-0 pour le tout premier match du technicien français avec le Gabon sur un pénalty en fin de match de Pierre-Emerick Aubameyang. La reconstruction est un petit peu plus compliquée pour Kamou Malo, le sélectionneur burkinabé, et sa vieille garde, Aristide Bansé, Charles Gaboré, ou encore Jonathan Pitroipa, comme a pu le constater Thomas Moulin à Saint-Leu-la-Forêt.
Il n'a manqué que 5 minutes et une erreur d'inattention au Burkinabé face au Gabon, mais le sélectionneur des étalons, Kamou Malo, préfère retenir la bonne prestation collective de son équipe.
Nous jouons en équipe, pas simplement des joueurs, mais une animation globale ensemble. C'est ce que nous essayons en tout cas de faire. Mais parfois, en football, on pêche par des erreurs où on se fait punir. Parce qu'un pied mal au contrôle et puis c'est un pénalty, bon, c'est ça aussi. Et ça permet aux garçons de grandir et de gagner en maturité.
Pour continuer de grandir, les étalons comptent sur l'aide de leurs cadres historiques. Charles Caboret, Jonathan Pitroipa ou encore Aristide Bansé. L'attaquant du club guinéen d'Oroya a décidé à transmettre la mentalité qui a fait la force du Burkina.
Gagner beaucoup de duels. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. On a vu nos défenseurs, nos milieux. Chacun courait de gauche à droite avec des tacles. Je pense que c'est ça le football. Je pense que c'est le Burkina Faso. Et de peut-être de 2013, de 2017. En fait, c'était le duel. Et donc, je pense qu'on est en train de mettre ça en place. Et c'est un travail collectif qui est en train de se mettre en place.
Une phase de reconstruction facilitée aussi par la présence de certains relais, comme Issoufou Dayo. Le défenseur de 28 ans a montré l'exemple face à Aubameyang et compagnie. Mais il le reconnaît, la présence de ses aînés au sein du groupe reste primordiale.
Les anciens, ils sont toujours importants. Ils donnent des conseils aux jeunes. Et voilà, surtout, il y a des jeunes qui viennent d'arriver. Et c'est leur première sélection. Donc, il faut les anciens à côté pour pouvoir les pousser. Et voilà, et Dieu merci, tout se passe bien avec les anciens et les jeunes. Et voilà, on est dans la continuité. On va essayer de tout faire pour que ça aille bien.
À commencer par le 13 novembre prochain et la réception de l'Ouganda en ouverture des éliminatoires de la CAN 2021. Histoire de repartir du bon pied après une dernière campagne de qualification ratée.
Voilà, Burkina comme Gabon qui tenteront de faire mieux dans ces éliminatoires et de cette fois-ci se qualifier pour la CAN au Cameroun.
Merci beaucoup Martin Guez.
Modèle Sport sur RFI.
Agibi, c'est un nom que les amateurs de rugby vont retenir. Agibi, c'est le nom du puissant typhon qui a frappé aujourd'hui le Japon et notamment la capitale Tokyo. Typhon qui a entraîné l'annulation de 2 matchs de la Coupe du Monde, le Crunch France-Angleterre. Et le duel entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, d'autres rencontres prévues demain, pourraient également subir le même sort. Cet événement extérieur chamboule donc le bon déroulement de la compétition et met les organisateurs dans l'embarras. Le reportage sur place de Cédric Delivera.
La nuit est tombée depuis bien longtemps sur Tokyo, mais les sirènes et les messages de précaution se succèdent. Il est 21h au Japon quand l'œil d'Agibis surplombe la mégalopole et avec lui des rafales de vent de plus de 150 km/h et des trombes d'eau qui s'abattent. Les rues sont désertes, les magasins fermés, les gares également et la capitale japonaise serre les dents en attendant que le typhon ne finisse de déverser sa fureur. Toute la région a été placée au niveau 5 d'alerte, le plus élevé. Mais ça n'empêche pas les glissements de terrain et les inondations. La terre aussi a tremblé, un séisme de 5,7 sur l'échelle de Richter, sans conséquence. En tout cas, à Yokohama, là où devait se jouer France-Angleterre, la situation semble sous contrôle. Mais en insistant à la puissance dévastatrice d'Agibis, difficile d'imaginer autre solution que d'annuler les matchs. La Coupe du Monde de rugby n'est évidemment plus une priorité, même si les équipes auraient voulu pouvoir disputer cette rencontre. Le sélectionneur anglais, Eddie Jones.
Évidemment qu'on est déçu. On voulait jouer contre la France. On avait beaucoup travaillé en conséquence, tactiquement, physiquement. Mais on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Je pense que les gens de World Rugby ont pris la seule décision possible pour eux. Et on doit faire avec.
Les Anglais ont donc dû s'adapter, tout comme le 15 de France, qui a donc préféré éviter les tourments du typhon en restant sur Kyushu, l'île la plus au sud du Japon. Les Bleus ont quitté leur quartier à Kumamoto pour Oita, un peu plus au nord, là où ils aborderont leur quart de finale la semaine prochaine, probablement face aux Gallois.
Pour Serge Simon, le président de la Fédération française de rugby, il a bien fallu se résigner à cette deuxième place de la poule C.
Sur le match, on aurait pu éventuellement prendre la première place, c'est un premier impact, bien sûr, mais nous sommes qualifiés quand même. Ceci dit, étant sur place, peut-être on prend la mesure de l'événement météorologique de manière peut-être plus importante, c'est un événement absolument gigantesque. Il y a des vies qui sont en jeu, la sécurité des biens et des personnes est en jeu. Le sportif, ici en tout cas à Tokyo, est relégué un petit peu au second plan.
La pilule est facile à avaler pour les Français et les Anglais. Ils étaient déjà assurés d'être en quart de finale. En revanche, l'Italie a bien du mal à accepter la situation. Son match face à la Nouvelle-Zélande a aussi été annulé. Elle est donc désormais officiellement éliminée. Même s'ils étaient loin d'être favoris, les Azzurri avaient encore une infime chance de qualification et ils auraient aimé pouvoir jouer face aux All Blacks. Résultat, match nul 0-0 comme le prévoit le règlement et 2 points pour chaque équipe. World Rugby n'est pas parvenu à relocaliser la rencontre, trop compliquée logistiquement. Désormais, la menace plane sur Écosse-Japon, prévue ce dimanche à Yokohama. À Gibis, ce sera éloigné, mais les dégâts pourraient être importants. Une annulation qualifierait d'office les Japonais mieux classés pour le moment que le 15 du Chardon, qui lui a besoin absolument d'une victoire. Le président de la fédération écossaise, Mark Dodson, garde espoir.
C'est notre dernière rencontre avec un enjeu énorme, crucial. Et notre point de vue, c'est que cela ne nous convient pas. Ce n'est pas juste. Nous estimons qu'il y a d'autres moyens d'y parvenir et qu'il y a eu des plans d'urgence, mais aucun d'entre eux ne semble avoir été exécuté. Nous demandons simplement à la World Rugby de faire tout leur possible pour que cette rencontre ait lieu. On s'est préparé pendant 4 ans pour ça et le monde du rugby veut voir ce match.
Japonais et Écossais sont donc suspendus à la décision des organisateurs qui doit être annoncée au plus tard ce dimanche, 6 heures avant le coup d'envoi. Pour le moment, la compétition était une réussite, mais si ce match capital était annulé, il jetterait un discrédit considérable sur cette Coupe du Monde. Cédric De Oliveira, Tokyo, RFI.
Et on vient d'apprendre que le match Namibie-Canada prévu demain a donc finalement été annulé. Un invité de marque dans Mondial Sport ce soir. Il s'agit de l'un des 2 médaillés français des championnats du monde d'athlétisme qui se sont achevés dimanche dernier à Doha. Il y a eu le même jour l'argent de Quentin Bigot au lancer du marteau et quasiment dans la foulée le bronze décroché sur 110 mètres haies par Pascal Martineau-Lagarde que nous accueillons donc ce soir. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Merci de nous faire le plaisir de venir nous voir ici dans nos locaux RFI. On va évoquer ensemble ce mercredi 2 octobre dernier, cher à votre cœur.
Finale du 110 mètres haies, Grant Holloway qui a pris meilleur départ. Pascal Martineau-Lagarde qui est dans la course pour l'instant. Omar Macleod, Pascal Martineau-Lagarde, elle a eu pour la médaille de bronze. Avec la victoire de Brazil, deuxième, troisième place pour Pascal Martineau-Lagarde et deuxième médaille pour l'équipe de France.
Vous l'arrivez là, il y a encore les frissons là toujours.
Ah ouais, bah c'est tout récent, hein. Donc là il y a effectivement la course, je me la refais un petit peu dans les jambes, mais surtout dans les frissons qui viennent. Ça fera toujours chaud au cœur de la revoir cette course.
Parce que à l'arrivée forcément il y a une joie immense, quoi.
Une joie immense, c'est sûr qu'une médaille mondiale c'est énorme. J'ai participé à une course qui était littéralement une boucherie pour ceux qui l'ont vu, parce qu'il y a eu beaucoup de casses.
Le tenant du titre McLeod, qui chute et qui freine en même temps l'Espagnol Ortega, puis voilà. vous en profitez là et puis oulouf,
et je me faufile et je réussis à monter sur la boîte, donc je suis un peu le survivant qui a sorti son épingle du jeu et qui a su rester concentré dans sa course qui pour les autres c'était pas forcément bien passé.
Le survivant, mais c'est pas totalement un hasard, j'ai envie de dire. Il y a les années derrière vous, il y a les échecs, et cette fois, bah, vous avez tout fait pour rester debout, parce que c'est le jeu en même temps du 110 mètres haies. Des fois, c'est un jeu de quilles.
Ah oui, j'ai eu un passé assez amer, hein, si je remets un petit peu d'histoire. Les championnats du monde en 2015 auxquels j'ai participé, j'ai fini quatrième. Et les Jeux Olympiques dans la foulée en 2016, j'ai fini également quatrième. Donc on l'appelle la médaille en chocolat, cette place-là. Et je peux vous dire que c'était dur à digérer le chocolat et j'en veux plus aujourd'hui. J'avais vraiment envie de croquer du métal, une vraie médaille. Et c'était dans cet état d'esprit-là que je m'étais présenté à ces championnats du monde. C'était Pascal, fais tout ce que tu peux, donne tout ce que tu as pour revenir à la maison et manger du métal plutôt que du chocolat.
Troisième place à l'arrivée, la médaille de bronze. Et c'est la première dans un championnat du monde en plein air. Après, quand même, 3 médailles mondiales en indoor, 2012, 2014, 2016. Mais celle-là, elle vous manquait, là, c'est cette consécration en plein air, dans les vrais mondiaux, quoi.
Oui, c'est vrai que mon palmarès en hiver, en athlétisme, il y a l'hiver et l'été, en hiver était très étoffé. J'ai jamais été champion du monde, mais j'ai eu toutes les couleurs de médailles. En salle, je commence à avoir une belle collection, mais en été, c'était pas étoffé. J'avais très, très peu de médailles et à chaque fois, j'avais une sorte de... si je peux pas appeler ça une malchance, mais une sorte de merde. Je fais un bel hiver et derrière ça ne suit pas l'été, et j'avais toujours ce goût amer de ne pas concrétiser ce que j'estime avoir dans les jambes. Donc maintenant je suis très content d'avoir enfin fait les grandes finales, l'année dernière champion d'Europe et cette année médaille de bronze au mondial d'athlétisme. C'est enfin, je crois que c'est le bon mot ça, enfin. Et donc voilà, très content.
Mais avant ces mondiaux de Doha, vous disiez c'est possible, parce que en même temps votre saison elle a été bizarre. Hein.
Ah, elle était très très bizarre et elle avait mal commencé. Hein. J'ai commencé avec beaucoup de pépins physiques qui se sont succédés jusqu'au mois de juin, juillet. Ma vraie préparation des championnats du monde a commencé en août. Et bah ça a suffi pour finalement me faire arriver avec des bonnes jambes. Mais j'irai plus loin que ça. Je pense que quand on se présente sur la ligne de départ en pensant au passé, en pensant vraiment Pascal, t'as pas eu une préparation superbe, t'as eu des blessures, etc. Bah on se dit que c'est se mettre des bâtons dans les roues et c'est pas partir avec. Il faut se présenter sur la ligne de départ plutôt en mode guerrier, en mode mort de faim, à se dire y a rien qui t'arrête. T'es arrivé ici, t'as fait des haies toute ta vie, t'as ça dans le sang et tu vas foncer. Et c'est plus comme ça que ça marche plutôt que se dire ouais c'est une préparation, c'est une médaille, ça se construit par A plus B à l'entraînement, voilà. Ça a marché le jour J, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, j'avais des nausées, la boule au ventre, etc. Mais ça a marché, la médaille est là.
Ces mondiaux de Doha étaient particuliers, bah, c'était la première fois
unique qu'un, je dirais,
pays
même
voilà accueillait ce genre d'événement. Vous les avez disputés ces mondiaux dans une enceinte climatisée, ça c'était une rareté, voilà, c'était une première. Le chaud, le froid, l'écharpe, vous avez raconté. Franchement, c'est agréable de vivre de
non,
une compétition comme ça.
Quoi. C'est pas agréable, c'est bizarre en fait. J'estime que c'était beaucoup trop climatisé. En fait, il y avait tellement un grand écart entre les endroits climatisés et l'extérieur que ce chaud froid permanent faisait que le corps humain n'aimait vraiment pas ça.
Et quand les organisateurs, Ligue 2F, vous mettent dans ce genre de conditions, vous dites quoi ? Yohann Diniz était plutôt en colère, le marcheur français. Vous, ça vous inspire quel sentiment ?
Alors le championnat, pour tout ce qui était dans le stade, c'est plutôt bien passé, dans l'ensemble. Mais il est vrai que pour le marathon et pour la marche, Yohann Diniz disait lui-même, et je comprends totalement ce qu'il dit, avoir marché dehors et subi un petit peu cette chaleur, il avait ces mots de dire que nous sommes des cobayes pour ceux qui ont fait les épreuves hors stade sous la chaleur, qui ont fait à minuit d'ailleurs.
Ils très tard le soir, effectivement.
Voilà, fallait
toujours chaud.
Bah voilà,
chaud,
c'est ça. On a fait un maximum finalement pour les retarder un maximum la course pour baisser les températures et courir en pleine nuit. Mais ça a pas suffi. On a eu un tiers des concurrents qui ont abandonné. Les longues distances ont vraiment été pénalisées.
Ces mondiaux étaient aussi particuliers parce que dans le stade, bah il y avait pas grand monde. Hein. Les tribunes étaient quasiment vides. Tout s'accumuler, est-ce que vraiment c'est une bonne publicité pour l'athlétisme mondial ? Ça vous inspire quoi, un peu de colère là ou...
Je pense que ça fait partie de l'ADN des championnats du monde, d'être dans un stade rempli avec une ambiance de malade. Et là, c'était le contraire. On avait un stade vide où les personnes qui étaient là ne connaissaient pas spécialement l'athlétisme, mais on sentait pas ce gros brouhaha, voilà, cette grosse passion qui encourageait à fond. Fallait se trouver un moteur comme ça de motivation pour quand même décupler ses forces. Alors, excepté la finale, la présentation de la finale était vraiment, vraiment belle. Ça avait un pouvoir de mettre dans l'ambiance de la finale. C'était incroyable. Au moment où ils éteignent les lumières, le public, ou plutôt le peu de public qu'il y avait, il se mettait à crier comme pas possible. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dit « Ah, ça y est, c'est cette ambiance-là de stade que je connais et que j'adore. »
Il y en a eu quand même un peu, alors.
Il y en a eu quand même un peu.
Tokyo 2020, là, la médaille olympique, c'est le rêve absolu ?
Ah, c'est le rêve absolu, et j'irais même un petit peu plus loin. On a la chance d'avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et donc, au-delà, effectivement, d'un rêve de médaille olympique... Le rêve de médaille olympique à la maison serait le rêve plus, qui va être très très difficile à faire, mais je le garde dans un coin de ma tête.
Bon, autant faire les deux, hein. Tokyo 2020 et Paris 2024.
Ah ouais.
Le doublé en or.
Inarrêtable.
On vous le souhaite. Merci beaucoup Pascal Martino Lagarde.
Merci à
d'être
vous.
Venu nous voir, médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha. Vous l'avez, cette première médaille mondiale en plein air. Félicitations et merci encore.
Merci.
Et on va se quitter avec quelques nouvelles de tennis. La finale du Masters 1000 de Shanghai opposera demain le russe Daniil Medvedev à l'allemand Alexander Zverev. Et puis chez les femmes, Cory Gauff, 15 ans, disputera demain à Linz en Autriche la première finale WTA de sa carrière. La prodige américaine, plus jeune joueuse à réussir cet exploit depuis 15 ans, justement, l'affrontera pour le titre la Lettonne Yelena Ostapenko, désormais entraînée par une certaine Marion Bartoli. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Valentin Vaner et Laurent Philippot étaient à la réalisation. À demain.